belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de la partager avec une meuf qu'on voit. Pleine d'énergie et d'enthousiasme, elle est à la tête d'une agence réceptive, elle vous expliquera ce que c'est, Perma Social Club, agence d'écotourisme locale mettant en avant les établissements en permaculture du sud de la France. Bonjour Alice Benisti.
Bonjour.
Un autre nom après.
Trier.
Voilà, qu'on le dise en entier. Alice, vous rappelez qui est à la base de notre belle rencontre à toutes les deux?
Bien sûr, le CIDFF, le Centre d'Information des Droits de Femmes et des Familles.
Oui, on était toutes les deux au Club des Créatrices. Mm-hmm. On peut faire un signe à Martine Viguier qui l'a tenue pendant longtemps.
Oui. Hein,
voilà, qui nous suit toujours un peu de pas trop loin quand même, à Martine. ça a été d'autres belles rencontres, le CIDFF, Alice?
Oui, une jeune femme qui s'appelle Nathalie, qui tient une entreprise qui s'appelle What Noah.
Qu'on a reçue en matinale il y a un peu plus d'un an. Ouais.
Mm-hmm. Consultante dans l'eau, qui accompagne les professionnels et les particuliers sur la gestion de leurs ressources en eau. On partage de très chaudes valeurs. Et on a pu aussi collaborer et se présenter à d'autres parties prenantes sur notre réseau. Elle a pu publier un article avec une vigneronne que je lui ai présentée. Et moi, j'ai pu, grâce à elle, rencontrer aussi quelques interlocuteurs chez Supagro. Et grâce à ça, je m'occupe de la journée d'intégration des étudiants Erasmus de cette école.
Donc vous avez un agenda plein. D'ailleurs, mardi, vous étiez avec Radio FM+, et vous ne le saviez même pas, sur le forum Accent.
Exactement.
Voilà, il y avait Rija, mm-hmm. que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui était au micro, et vous étiez avec La Ruche, c'est ça? Et
c'est
le CIDFF.
C'est ça, exactement.
On va commencer par un peu parler de vous, avant de parler de Perma Social Club. Vous êtes née en Israël, vous avez passé votre enfance dans l'Hérault, vous avez une formation en tech de co, bilingue, technico-commerciale, et vous partez à Londres. La ville-monde, c'est marrant, pour moi c'était New York la ville-monde, mais c'est Londres, voilà, je me suis trompée, vous offre une success story. Vous commencez dans le secteur de recrutement en informatique et rapidement vous faites débaucher par une grosse multinationale du PTP et vous occuperez un poste d'économiste de construction. C'est pointu quand même. Hein.
Mmh.
Vous travaillerez notamment pour l'aménagement des JO 2012. Quel souvenir gardez-vous de cette période londonienne qui a l'air très busy woman, hein?
C'était fulgurant, trépidant, frénétique, incroyable. Des opportunités sans nom. C'est-à-dire que ce que j'ai fait en l'espace de 13 ans à Londres, ça aurait pris une vie entière en France. De passer de la vente de produits de beauté au recrutement d'informatique et après de faire carrière dans le bâtiment où j'ai quasiment travaillé pendant 10 ans. Je pense qu'en France, travailler dans le bâtiment sans avoir eu déjà un diplôme dans le BTP en tant que tel, c'est pas possible.
C'est une question que je vous pose d'ailleurs plus loin dans notre rencontre, mais on est vraiment lourd en France sur tout ça?
Ah oui.
Ouais.
Oui.
C'est une évidence.
Oui.
Mmh.
Oui, oui.
Lourd et taxé. Et chargé.
Ah, c'est peu dire.
C'est peu dire.
C'est peu dire.
À l'époque, vous ne prenez pas forcément conscience de l'urgence et de la gravité de la crise environnementale. Qu'est-ce qui... c'est cette vie justement frénétique et agréable de pendant 13 ans, hein, ça va durer, mm-hmm. Qui fait que, bon, en définitive, ce qui se passe autour de vous, c'est pas votre première préoccupation?
Non, et... Puis j'avais la possibilité de rentrer facilement dans le sud de la France. De pouvoir m'évader facilement en montant dans un avion comme on peut monter dans un bus pour aller s'évader sur des destinations ensoleillées.
Vous gagniez très bien votre vie à l'époque?
Raisonnablement bien, ouais. Mmh. Ouais, ouais.
Et est-ce que les Anglais, eux, ont cette prise de conscience plus que nous sur l'environnement ou pas plus que nous à l'époque?
Non, pas plus. Non, vraiment. Mmh. Enfin, voire pas du tout. À l'époque, c'était une vie d'opulence.
Mmh. Ce qui est très étonnant, c'est que cette vie justement trépidante, sur le site que j'ai trouvé, décadente, alors je sais pas si vous aimez ça, ce terme décadent, enfin en tout cas trépidante, on comprend que vous allez aimer pendant 13 ans, ça va quand même à la fin aboutir par un burn-out. Comment il s'est manifesté ce burn-out?
Donc, moi j'avais... Dans Londres.
Qui était en plein Brexit, hein. Faut quand même le préciser c'était pas un moment très sympa.
Dans Londres, moi, je me suis toujours débrouillée pour vivre pas loin d'un grand parc, d'avoir un jardin, d'avoir toujours ce petit espace de verdure dans lequel, moi, je pouvais me plonger. Et je pense que c'est pour ça que j'ai tenu autant de temps. Et puis, pour mes 35 ans, je m'étais dit, je vais aller retrouver un vieux copain, peut-être en Turquie. Et au final, lui, il était à Vienne, donc je vais partir. Enfin, me voilà à Vienne pour passer 5 jours, mais quand même préoccupée des projets que j'avais au travail. Toujours préoccupée par ses responsabilités, cette pression de la gestion financière, de budget astronomique sur construction, rénovation d'écoles. Enfin, c'était assez fulgurant. Et je rentre de Vienne. Et on m'avait conseillé quand même de prendre rendez-vous avec mon médecin pour que je me fasse accompagner avec une assistance de psychologie.
Vous sentiez fragilisée quand même.
Complètement, complètement. Et là, le rendez-vous que j'avais pris pendant que j'étais à Vienne n'était pas dans le calendrier du médecin. Et ça a été l'effondrement total. J'ai crise de panique, hyperventilation, je pleure non-stop pendant une demi-heure parce que je n'ai juste pas le rendez-vous de mon médecin.
Excusez-moi, Alice, je vous coupe, mais c'était un médecin à Londres ou
À Londres. Un médecin généraliste. C'est parti de là. Et j'ai fini par être accompagnée. On m'a arrêtée. J'ai eu 10 jours à Londres, chez moi, pour dormir, me reposer, ne pas me soucier de cette pression du travail. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça fait déjà quelques années que je veux partir de Londres. Qu'est-ce qui me retient foncièrement? Mais rien. Il n'y a rien qui me retient. Et en 3 mois, j'ai plié bagages, j'ai vendu les meubles, j'ai vendu un tas de trucs dont j'avais plus besoin. J'ai récupéré ce que j'avais, ce qui comptait, mes 2 vélos, quelques fringues, quelques objets que j'avais gardés ou que j'avais achetés pendant mes voyages, 2 mètres cubes et puis direction le sud de la France. J'ai tout claqué. Et c'est vrai qu'effectivement, donc moi je suis partie en décembre 2016, et juin 2016, donc il y avait eu le vote du Brexit, un peu l'hécatombe à Londres. On aurait dit que la reine était déjà morte. C'était assez impressionnant.
Soit pour le monde des affaires, eux, ils avaient la trouille.
Oui, mais complètement, complètement. Non, et puis j'étais sujet au racisme aussi.
Vraiment?
Ah oui, complètement. Oui.
C'est
dingue. Ouais. Le directeur de ma division de l'école, de l'époque, parce que je travaillais dans un grand groupe, à séminaire de milieu d'année, quelqu'un dans l'assistance me dit, bon alors, les projections, vous dites que tout va bien se passer parce que on a une bonne relation avec nos bons clients et que les projections sont bonnes. Mais si ça se passe pas comme prévu, c'est quoi le plan B? Et là, sur un ton très... mince, on dit ça, patronizing en anglais.
Très cassant, très impatronisé.
Hein. Ouais. Il nous dit, on est dans la merde. Et puis, mais laissez-moi vous donner une petite leçon d'histoire, puisque certains d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque. Et là, il commence en fait à cracher son venin en disant, c'est à cause de ces connards de Français et ces connards d'Allemands que nous sommes dans cette situation. J'étais la seule Européenne dans la salle. Donc là, je me suis dit, mais quand même, ça va bien dans l'encontre de la directive des associés de ce groupe qui nous disait que malgré le Brexit, nos relations internationales importaient, qu'on travaillait justement très étroitement avec nos clients et nos fournisseurs à l'étranger et que pour nous, peu importe le Brexit, on tenait à ces relations-là. Donc moi, quand j'ai entendu ce discours de mon propre directeur, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Ça fait 12 ans que je suis là à me saigner, à payer les impôts, à travailler sur des projets d'école, à contribuer à des projets urbanistiques sur la transformation du parc des Jeux Olympiques, la construction de la piscine. Et c'est comme ça que moi, on me remercie en m'insultant comme ça publiquement. Donc, ça n'a fait que rajouter une énième goutte au vase.
Donc, vous arrivez, vous revenez dans le sud de la France avec vos 2 mètres cubes. Et pendant que vous étiez en Angleterre, vous aviez fait un voyage à Cuba.
Oui.
Moi, j'y étais 10 ans avant vous et j'ai le même ressenti. C'était un retour dans les années 60 qui n'est pas seulement dans le décorum. Hein, parce que bien sûr qu'il y a les bagnoles, il y a le Malecón. Vous étiez où à Cuba?
Je suis allée à La Havane. Moi j'ai vécu une expérience à...
Combien de temps vous êtes restée?
Une petite quinzaine de jours. Ouais. Mais mon expérience était assez particulière parce que j'y étais pendant le bénial. Et par l'intermédiaire de copains, je me suis retrouvée à aller boire le café chez un fils du Che Guevara. Mm-hmm. Qui est écrivain, poète, yogi, philosophe, interprète, et qui m'a présenté à l'équipe de journalistes de, si je ne m'abuse, c'était NBC aux États-Unis, et le fixeur cubain m'a dit, écoute, si tu veux profiter de Cuba pleinement, tu n'as rien prévu, va à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée à suivre l'itinéraire du documentaire sur lequel lui, il travaillait. J'ai pris une claque. Parce que déjà, à l'époque, c'était 14 $ pour 2 heures de Wi-Fi. Donc, déconnecté du monde digital, immergé complètement dans la culture locale.
Et puis, moi, j'étais confrontée là-bas à une misère, quand même, avec les gens qui vous suivent dans la rue pour vous demander un crayon, un papier. Enfin, moi, je vivais vraiment... je suis allée à 2 endroits, La Havane et Varadero. Hein. Donc, Varadero, c'est le truc pour touristes où vous êtes quand même bien protégée.
Oui, mais je pense que le touriste, en général, à Cuba, est très protégé, puisque c'est la source d'économie pour le pays.
Et quand vous faites ce burn-out, que vous revenez, quand vous êtes revenu de Cuba? Voilà, c'était un moment où vous avez emmagasiné toute cette énergie que vous avez pris et qui est ressortie justement après votre départ de Londres.
Mais ça a été en fait un premier éveil, ce que j'appelle aujourd'hui dans la quête de sens, l'alignement avec ces valeurs qui nous animent, les principes de vie aussi, qui nous dictent un petit peu notre conduite. Et Cuba, ça a été le, sans vraiment le savoir à ce moment-là, ça a été la première étape, on va dire, dans cette quête de sens.
Et puis, vous avez 35 ans, vous revenez de Londres, pas longtemps après, et puis, quelque chose se passe dans votre vie, une agression violente qui vous casse. Et voilà, on peut pas dire autre chose.
J'étais déjà bien cassée, mais alors là, j'étais...
Le burn-out plus l'agression, voilà.
Ah oui, ouais, ouais. C'est un gros reset, mais à tous les niveaux. Confiance en soi en tant que femme, posture sociétale, posture professionnelle, tout remis à zéro.
Et c'est là la première rencontre avec le CIDFF?
Exactement. En fait.
Donc au début, vous n'avez pas connu le CIDFF par le monde de l'entreprise, mais par le monde de l'action sociale auprès des femmes qu'ils ont.
Exactement. Donc, quand j'ai porté plainte, j'ai été accompagnée par la psychologue de la police nationale de Montpellier, qui m'a ensuite référée à la cellule psy du CIDFF. Dans le cadre de cet accompagnement-là, comme j'avais une réinsertion ou remise à l'emploi en France, j'ai pu aussi bénéficier de la cellule emploi au sein du CIDFF. Ça, ils ont été d'un soutien incommensurable. Je suis encore immensément reconnaissante.
Je vous rejoins parce que c'est aussi moi me retrouver au chômage à 59 ans avec une exigence de Pôle emploi pour retrouver du boulot si je n'avais pas rencontré le CIDFF et notamment Chantal à l'époque qui m'a dit que ce n'était pas de ma faute tout ça. Un plan social, ce n'est pas de ma faute. Déjà rien que ça, c'est... Voilà. Donc un jour on les invitera, le CIDFF, à s'exprimer aussi sur nos ondes. Et puis, alors si j'ai bien compris dans l'ordre chronologique, vous partez pour un long séjour en solo à travers l'Amérique latine.
Ouais.
Aucune peur d'aller en Amérique latine. Ouais. Si vous allez même en Bolivie, alors est-ce que c'est vraiment violent la Bolivie? Si on me dit, non mais la Bolivie, tout le monde parle de la Bolivie à cause de la drogue, mais Steve, il y a d'autres pays proches qui sont beaucoup plus dangereux que la Bolivie.
Oui, oui.
C'est pas parce qu'il y a Medellín en Bolivie que forcément c'est...
Non, en Medellín, c'est la Colombie.
Ah bah voilà, alors... est-ce que tout ça, alors Bolivie, Colombie, vous avez fait quel pays déjà, Alice?
Alors, moi je suis rentrée, j'ai fait une petite remise à zéro en France. Déjà, j'ai voyagé en France. J'ai pris le temps avec la famille, j'ai pris le temps pour moi, de prendre soin de moi. Je m'étais assurée de faire aussi mon travail de citoyenne. J'ai voté au présidentiel avant de prendre mon sac à dos et de partir, voyager.
Je vous reconnais bien là. Citoyenne engagée quand même, hein, Alice Bélisti.
Oui, il faut. Du moins, c'est fortement recommandé. J'ai atterri à Rio en passant par Casablanca. J'ai traversé... Après, j'avais 9 mois pour faire de Rio à Medellín. Et le challenge, c'était d'être dans le lâcher-prise. Puisque j'étais dans un cadre à Londres qui était dans le contrôle le plus total. Tout était structuré, organisé, méticulement. C'était au millimètre. Mon agenda était greffé en moi. Et donc là, je me suis dit, je vais partir dans le lâcher-prise. J'ai juste mes billets d'avion qui me font faire Montpellier-Rio, et puis Medellín.
Paris.
Non, Medellín, Miami.
Miami. Ah d'accord, vous avez transité par les États-Unis.
Oui. Mais ça c'est...
Une autre histoire.
Une autre histoire. et j'avais 9 semaines pour faire Rio-Medellín. Et je me suis dit, bon grosso modo, on va rester 3 semaines par pays. Donc quand même un petit peu structure dans tout ça. Hein. Mais sans savoir où j'allais dormir le lendemain. Et je m'étais dit, je veux être au plus proche des locaux, je veux m'immerger dans la culture. Je l'ai déjà fait dans plusieurs pays, je l'ai fait au Maroc, je l'ai fait en Afrique du Sud. Donc je peux le faire aussi en Amérique latine, il n'y a pas de raison. J'ai fait du couchsurfing. J'ai dormi.
Je ne sais pas ce que c'est que ce mot.
C'est couchsurfing, couch c'est le canapé.
D'accord.
Et surfing c'est surfer.
D'accord.
Donc on surfe les canapés des gens.
D'accord. C'est le concept de j'irai dormir chez vous un peu,
c'est à peu près le même style. C'est un site internet qui permet de mettre les voyageurs et les hébergeurs en contact.
Parce que la question toute bête, mais 9 semaines, vous le financez comment? Vous aviez des sous de côté de Londres?
Oui. J'avais quelques pécules.
D'accord.
Mais bon, j'étais aussi consciente que je voulais faire un peu attention. Je voulais contribuer à l'économie locale. Je voulais m'immerger dans la culture. Je voulais aussi faire une période de volontariat à un moment. Donc je m'étais dit, la Bolivie, c'est un des pays les plus pauvres au monde, d'un point de vue économique, parce qu'en termes de richesse culturelle, on peut aller se brosser.
Mais le plus pauvre du monde, c'est Madagascar, qui est très riche. Hein.
Voilà. Donc c'était une expérience incroyable d'un point de vue culturel et humain. Et j'ai dormi pendant 3 semaines. Sur les canapés ou dans une chambre d'amis. C'est-à-dire que les gens qui ont le sens de l'accueil vous ouvrent leurs portes et on m'a même prêté une voiture au Brésil pour que je puisse aller à la frontière pour voir les chutes du Fosse d'Iguaçu.
Et c'est justement cette tellement grande différence entre l'individualisme, la course au fric, tout câblé, enfin tout carré comme ça à Londres, et puis cette liberté que vous avez vue en Amérique du Sud, qui fait que quand vous revenez en France, vous savez que de toute façon, vous ne retournerez jamais dans la période londonienne, ou dans de toute façon, ce mode de travail. Et après, quand on va sur votre site, vous le dites bien que l'adéquation entre votre vie perso et votre vie pro, c'est hyper important pour vous. Vous savez, en revenant à ce moment-là d'Amérique du Sud, que c'est une autre vie qui va démarrer.
Ouais. Non, il y avait ce besoin d'alignement. Et par l'intermédiaire d'un copain, j'ai découvert le terme permaculture. Et je creuse un peu et j'y trouve quand même des grands concepts de soins de la nature, de soins de l'humain, de sens de partage, partager ses ressources équitablement. Et là, je me dis, mais Je vais creuser un peu.
Alors on va creuser tout de suite après la première pause musicale que vous nous avez trouvée. Et on reste encore à Cuba, un peu en Amérique du Sud. Enfin, Cuba, c'est pas l'Amérique du Sud. Enfin, voilà. On écoute Chan Chan. Toujours sur Radio FM+, avec Alice Benisti
Trier,
et avec Yann, à la technique, que j'oublie toujours de présenter. Bonjour Yann. on s'est quitté sur votre découverte de la permaculture, et donc on va parler de votre entreprise maintenant, on va parler pas mal de vous. On va parler donc de ce Perma Social Club. Déjà, comment il vous est venu ce nom, bien qu'on ait quand même, vous nous avez donné des pistes en début d'émission.
Tout début... En fait, le projet, c'était d'avoir une maison d'hôtes. Et donc, on voulait mettre le mot house dedans. J'en ai parlé à mes parents, à ma sœur, à mon frère, qui a un profil très entrepreneur. Et donc, on pensait aux légumes, parce que l'idée, c'était en fait d'associer le monde de la permaculture au tourisme. Et donc... on a eu et puis on a pensé à l'arbre, on a pensé au ginkgo biloba qui est le un peu l'arbre éternel qui a survécu
des changements de vie, de température et autres
nucléaires oui. Et entre autres. Donc voilà, on est passé par plein de brainstorm et j'ai repris mes études pour me lancer dans le tourisme. Et
avec quand même, par rapport à la période de Londres, cet acquis de prise de conscience. Donc là, tous ces voyages à travers le monde, à travers la France, partout, vous l'aviez, cette prise de conscience écologique, ça y est.
En fait, sans le savoir, je l'avais déjà en moi. Ouais. Je l'avais déjà
c'est
en moi.
C'est pour ça que vous n'avez pas supporté Londres, d'ailleurs.
Mais c'est peut-être... Oui, ben oui. Quand on a un papa qui nous amène à la rivière pour récupérer des têtards dans une bouteille en plastique et qu'on se retrouve à transformer un aquarium pour observer les grenouilles grandir et aller chasser les couleuvres, les criquets, j'ai bercé dans tout ça.
Donc là, vous êtes réalignée, c'est ce que vous disiez.
Et donc maintenant, je suis réalignée. Donc, le monde de la permaculture, le monde du voyage, cet hébergement que je voulais créer. Je me suis dit, il faut que je reprenne mes études. Le CDFF m'incite à le faire, m'aide à monter un dossier de financement avec Pôle emploi. C'est pas
simple. Hein.
Vive les administrations françaises. Mais je postule au CNAM à Paris, le dossier est accepté et je me retrouve à faire des allers-retours entre Montpellier et Paris, une quinzaine sur une année en 2018. L'année où aussi j'ai fait mon cours certifié de permaculture. Donc,
vous reformez de A à Z.
De A à Z, année charnière. Hein.
Est-ce que vous auriez pu monter la société sans avoir fait ce parcours-là de reformation ?
Je pense que j'aurais pas la crédibilité que j'ai dans le secteur aujourd'hui.
Et c'est, sincèrement, vous avez appris beaucoup de choses.
Oui. Ouais. Oui, 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 oui. Et sans le savoir, j'ai rencontré Brice Dution, qui était notre maître de conférence à l'époque au CNAM. Et, qui...
Vous pouvez redire ce que c'est que le CNAM pour nos auditeurs ?
Le Conservatoire National des Arts et Métiers. Donc, Brice a été la clé de voûte dans... dans ce monde du tourisme dans lequel j'allais entrer, quoi. Et Brice m'a présenté à énormément de gens. Les intervenants étaient d'une qualité incroyable dans le cadre de cette licence en création d'entreprises touristiques. Et il y avait un petit module sur le tourisme durable avec Guillaume Cromer, qui à l'époque était le président de l'Association des acteurs du tourisme durable. Et... Donc, je dis à Guillaume...
C'est quoi, ça, 2017, 2018 ?
On est en 2018.
Ouais, c'est ça.
Toujours 2018. Mmh. Et donc, je dis à Guillaume, j'aimerais faire une formation dans la permaculture. Qu'est-ce que t'en penses ? À ton avis, il faudrait que je me renseigne auprès de qui, auprès de quoi, machin. Je creuse un peu, et puis je trouve localement, dans Pays Cœur d'Hérault, une asso qui s'appelle Humus Pays Doc. Et c'est là où j'ai pris la claque écologique.
D'accord.
C'est là où vraiment, pendant mon cours certifié de permaculture, où j'ai réalisé en fait le monde du vivant et combien nous étions dépendants de tout ça.
Et comment on va mal quand même.
Comment on va très mal. Mmh. Et qu'on a du mal vraiment aussi à prendre soin les uns des autres. Et à prendre soin de, du vivant et ce monde dans lequel on vit. Et puis à force de me frotter à des associations locales, j'ai contribué à un événement qui a... rassembler Edgar Morin et Pablo Servigne. Une conférence assez incroyable. Et moi, quand j'ai découvert les travaux de Pablo Servigne, j'ai pleuré pendant 4 jours. Impossible d'écrire mon business plan dans le cadre de ma licence. Impossible. Je me suis dit, mais ça sert à quoi de se lever demain, en sachant que on s'apprête à rentrer dans ce que lui qualifie les effondrements de notre civilisation industrielle. Pourquoi monter une entreprise ? Pourquoi se lever demain matin, quoi ? Puis je me suis dit, bon, j'ai pas le courage de me jeter par la fenêtre. On va aller aux estivales de Saporta. On va aller rencontrer des producteurs locaux avec qui j'aimerais bien travailler dans le cadre de mon projet. Et on va leur demander ce qu'ils en pensent. Parce qu'en fait, c'est eux le nerf de la guerre. C'est eux qui nous nourrissent. Et c'est parti de là. Et j'ai commencé à écrire. Et quand j'ai vu que les producteurs avaient leur place et que les hébergeurs avaient leur place et que l'entreprise pouvait aussi s'inscrire sur une démarche territoriale, parce que l'air de rien, si moi je suis partie vivre à Londres, c'est qu'il y avait un taux de chômage assez élevé au début des années 2000. Et quand je reviens en 2017, on avait quand même aussi un chômage mirobolant dans l'Hérault. Donc, humble ambition. Créer de la richesse et de l'emploi sur notre territoire en mettant en lumière nos producteurs et nos acteurs du tourisme qui portent les valeurs de la permaculture, de soins et de partage. C'est parti de là.
Et aujourd'hui, donc, 2018, avant d'en arriver à aujourd'hui, 2020, on sait tout ce qui se parie, c'est ce qui arrive, hein, février-mars, voilà. Et comment vous réagissez ? Parce que vous étiez, l'entreprise était lancée déjà en 2020 ?
Ah, alors,
ambitieux... Je rappelle que c'était le Covid. Parce que comme depuis, il y a eu l'Ukraine qui n'a plus de Covid, et maintenant, il n'y a plus de, il y a plus d'Ukraine, puisqu'il y a Israël. Donc comme ça, c'est bien.
Oui,
non, on oublie toujours les drames récents. Donc vous, comment vous l'affrontez, ce Covid ?
Alors,
enfin, comment l'entreprise, là, surtout.
Donc, j'obtiens mon diplôme fin 2018. Je suis toute heureuse et pleine d'ambition en me disant, ce projet a l'air super bien. Mon réseau local dans le sud de la France et t'as l'air super enthousiaste à l'idée que je monte cette entreprise. Bingo, j'y vais. Démarche administrative, symboliquement, ça m'a mis 9 mois pour donner naissance à une agence de voyage. Pour avoir le Graal, l'immatriculation chez Atout France. 9 mois. Je vous passe... la garantie financière, la responsabilité civile professionnelle, comment obtenir la garantie financière, garantie bancaire à première demande.
Il y a quelqu'un qui vous aide là, par exemple ?
Ah non, non.
Tout ça, c'est des démarches perso, des heures et des heures.
Des heures de recherche, à passer des coups de fil.
À la création d'entreprise de Pôle emploi ou rien ? Faut continuer à vivre quand même pendant cette année 2018-2019.
Puisque j'avais bien travaillé à Londres, j'ai pu bénéficier du chômage. Mais le calcul de mon taux journalier ne pouvait pas être fait sur un salaire que je touchais au Royaume-Uni. Donc il fallait que j'aie au moins un bulletin salaire français. Naïve que j'étais. J'ai travaillé en freelance pour mes anciens employeurs sur un projet à Paris. Donc dans le BTP. L'aménagement d'un vieux bâti pour une grosse boîte tech à Paris. Et je travaille à raison de un jour par semaine, avec un taux journalier incroyable, qui me permettait en parallèle de pouvoir faire ma formation avec le CNAM à Paris. Puisque je ne travaillais que...
Bien sûr.
Oui, donc il fallait que je jongle un peu tout ça. Mais comme la beauté du calcul du taux journalier chez Pôle emploi en sorte pour qu'ils aient le moins à débourser, je me suis retrouvée avec des paquettes.
Vos parents vous ont réaidé ?
Ben, je ne serais pas là et mon entreprise ne serait toujours pas là post-Covid sans mes parents. Remerciement éternel à mes parents.
Parce qu'eux, ils croyaient ?
Ben, ils croient en moi.
Tout le monde, oui.
Avant tout. Mes parents ont eu du mal à comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Ils ont eu du mal à comprendre ce que c'était la permaculture. Ils ont eu du mal à comprendre quelle est la vision que j'avais pour le tourisme. Maintenant, ils ont percuté.
Vous trouvez qu'entre 2016, où ça commence à graviter dans votre tête tout ça, et 2017, et puis aujourd'hui, donc 8 ans après quand même, les mentalités commencent à changer, ça commence à bouger. Parce que votre angoisse qui vous... Enfin, quand vous avez vu, vous parliez de l'effondrement tout à l'heure, qui est un sujet qui a l'air de vous toucher énormément. Vous prenez ça dans la gueule à 35 ans, 36 ans. Quand je parle avec des gens qui ont 20 ans, eux, ça change même, c'est-à-dire qu'ils ont presque plus envie de créer. Vous, ça vous a donné de la combativité. Tout le monde ne réagit pas comme ça, et c'est même pour ça, des fois, que chez les jeunes, hier, je discutais avec un jeune de 28 ans, les enfants, non. Et c'est pour ça, hein. La raison, c'est ça. C'est l'effondrement. Alors, chacun voit l'effondrement à sa porte, mais vous, cette combativité, ça a été immédiatement une réponse, justement, à ce désarroi ou à cette, révolte, d'ailleurs, qui était peut-être plus proche d'une révolte que d'un désarroi.
Je le cache pas, j'ai un taux d'éco-anxiété, il vacille. Il y a des fois où j'ai beaucoup de mal. Je me sens submergée par la quantité d'informations qu'on a aujourd'hui. Donc effectivement, entre 2018 et aujourd'hui, le Covid a très bien fait son travail. Et puis les médias aussi. A infusé surtout de la peur. Mais derrière ça, il y a des possibilités d'agir et de s'investir. Le film de Cyril Dion sur demain et après-demain, le film après-demain montre qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place. Il y a des choses qui se passent. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière.
Vous pensez que politiquement, les pouvoirs, par exemple l'Europe, tous dans l'Europe, il y a ça, on vous en a mis un bon coup sur le Covid, après un bon coup avec la guerre en Ukraine, de nous rendre immobiles, de taire même ce qui a éclos quand même pendant le Covid, c'est les gilets jaunes, tous ces mouvements-là. Je demande nos capacités de révolte, elle est éteinte par la peur ? Vous l'analyseriez comme ça ?
Non, regardez les méga-bassines. Au final, on a fini par gagner. Ce sont les agriculteurs.
Rien n'est acquis, Alice, quand même.
Non, rien n'est acquis.
Moi qui ai le double de votre âge, quasiment, rien n'est acquis.
C'est pour ça qu'il faut continuer. Et je pense que nos dirigeants sont pleins de bonnes intentions. C'est juste que la machine est infernale. Et que tout prend du temps. 9 mois pour monter une agence de voyage. 9 mois, alors que j'ai tout autofinancé. Et que j'ai obtenu, d'ailleurs, entre parenthèses, le fameux agrément à Tout France en décembre 2019, juste avant le Covid. Et au début, toutes les agences de voyage à travers le syndicat, en PLS, ils étaient tous paniqués. Qu'est-ce qu'on va faire de nos voyageurs qui sont bloqués de l'autre côté de la planète? Comment nous, agences de voyage, qui sont tributaires du monde du pétrole et de l'aviation, comment on va subsister? Et puis moi, qui venais juste d'avoir ma petite agence de voyage, à l'échelle locale, puisque l'idée, c'est de faire des choses sur l'Occitanie, principalement. Qu'est-ce que je vais faire? En sachant que, en tant qu'agence réceptive, mon besoin, c'est de répondre à des tours opérateurs internationaux qui m'envoient de la clientèle localement. Comment je vais pouvoir accueillir des étrangers quand les frontières sont fermées? Quand je peux même pas, moi, sortir de chez moi ou aller au-delà d'un kilomètre? Et que des grands professionnels consultants dans le monde du tourisme disent « Mais ma belle, il va falloir que tu repenses tout ton modèle économique. Il va falloir que tu repenses ton marché, ta clientèle, tes produits, tout. »
Alice, il nous reste 4 minutes et je voudrais vraiment qu'on parle de ce que propose Perma Social Club, parce que c'est important aussi. Là, voilà, on a fait des bilans, on a parlé de vous, mais il nous reste quelques minutes, donc je vous laisse la parole pour nous dire ce que c'est. Voilà,
okay.
Aujourd'hui, ce que vous proposez quand on vient vous voir.
Donc, Perma Social Club est une agence de voyage locale et éco-responsable. Elle s'adresse aux particuliers comme aux entreprises. L'idée, c'est de proposer des voyages, des séjours ou des excursions. Donc sur un rayon de 200 km de Montpellier, disons, et qui met en lumière nos acteurs du tourisme et producteurs locaux qui sont dans les grandes valeurs de la PERMA. Soin de l'humain, soin de la nature, le partage. In fine, d'une façon ou d'une autre, on contribue au maintien et au développement de la biodiversité. Les excursions peuvent être à la demi-journée ou à la journée. Les séjours peuvent être sur un week-end ou carrément une semaine, voire 2 semaines de vacances. En tant qu'agence de voyage, et c'est la beauté de la chose, c'est que je peux faire de l'assemblage. Donc, transport, hébergement, restauration, activité. On reste dans ces grandes valeurs-là et on se dit des grandes thématiques. Le bien-être, l'aventure, la surprise, la gourmandise, bien sûr. Et puis, on peut rajouter une dose de culture. Donc, il y a quelques séjours qui sont packagés. L'idée, c'est de créer un maximum de partenariats avec des acteurs du tourisme.
Combien de partenaires, vous savez, à peu près?
Aujourd'hui, j'en ai répertorié à environ 300.
C'est beaucoup.
Ouais. Donc, après, avec un contrat de partenariat, bien moindre. Parce que on est dans le sud de la France. Les choses prennent plus de temps, mais aussi ça permet de créer des liens de confiance. Et ce maillage économique que j'ai envie de créer sur le local, avec comme ligne rouge, l'entraide. L'entraide et la résilience.
Les tarifs?
Ça vacille. La demi-journée peut être à 45 euros.
C'est des tarifs que j'essayais quand même de garder abordables.
Ben, surtout juste. Juste s'assurer que toutes les parties prenantes aient leur part du gâteau. Que ce soit l'entreprise, mais aussi les partenaires.
Et que tout le monde soit gagnant-gagnant.
Voilà. L'idée, c'est ça. C'est de créer un maillage économique où on se nourrit les uns les autres.
Pour vous connaître, pour vous contacter, donc pour vivre ces expériences locales et éco-responsables, votre petit flyer est très joliment fait d'ailleurs.
Merci.
Et pour soi, faire de la permaventure ou du permagourmand ou du permabien-être, comment vous contacter, comment vous rencontrer, Alice?
Le plus simple, 06 23 47 31 28, ou sinon adresse mail, contact@permasocial.club, ou sinon le site internet, permasocial.club.
Et donc, je rappelle que nous venons de nous retrouver, de nous rencontrer. Ça, je pense que notre rencontre, ça date de 2019, justement, juste avant le Covid. Avec Alice Benisti-Triet, qui nous a parlé du Perma Social Club. On vous a donné toutes les coordonnées pour la contacter. Et puis, on mettra tout ça dans sur notre site.
Merci beaucoup.
Merci, Nathalie. Alice. Et bientôt pour une autre belle rencontre. Au revoir.
Au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.